Radio Orient présente Pluriel. Pluriel, animé par Loïc Barrière.
L'invité de Pluriel est Lamia Elarage, députée sortante du 20e arrondissement de Paris, conseillère de Paris et porte-parole du Parti Socialiste. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors Lamia Elarage, la Russie a lancé une offensive contre l'Ukraine. Que vous inspire cette guerre menée par Vladimir Poutine au cœur de l'Europe ?
Je crois que, comme tout citoyen européen ce soir, je suis sincèrement atterrée et profondément inquiète. C'est vrai que pour nous, de notre génération aussi, la construction qui est celle de l'Europe, c'est un projet de paix avant toute chose. C'est un projet de stabilité, c'est une vision d'ensemble de ce que doit être aujourd'hui ce vieux continent. Et de voir aujourd'hui que cette paix est menacée, enfin plus que menacée, puisqu'elle a été attaquée du fait de l'offensive d'une personne agissant seule au détriment à la fois de notre sécurité, au détriment de notre projet d'avenir, au détriment de tout ce qu'on a construit pendant toutes ces années. Franchement, je suis extrêmement inquiète et je ne sais pas bien ce que tout ça va donner, mais ça n'augure rien de bon. Donc j'espère qu'on va avoir une réaction collective très forte, que l'ensemble des pays européens vont se dresser contre cette menace et adopter à la fois une voix très ferme, mais aussi des sanctions très dures à l'encontre de la Russie pour que tout cela cesse le plus vite possible. Et évidemment, j'ai une pensée pour les citoyens ukrainiens ce soir et je leur adresse toutes nos pensées solidaires et fraternelles dans cette très douloureuse épreuve que nous vivons avec eux.
Vous êtes proche d'Anne Hidalgo qui est candidate à l'élection présidentielle. Elle évoque la politique internationale dans son projet et selon elle, la voix de la France et la force de l'Europe doivent permettre d'agir contre les désordres du monde. Plus que jamais, l'Europe doit montrer son unité.
Évidemment, nous sommes, nous, socialistes, sociodémocrates, profondément européens. Nous avons toujours cru dans le projet européen, nous le défendons fermement. Et d'ailleurs, je crois que cette attaque russe aujourd'hui à l'encontre d'un État européen montre à quel point il est aussi temps que l'Europe devienne une vraie Europe de la défense, qui soit en capacité aussi d'agir fermement à l'encontre de menaces qui viendraient atteindre l'un des membres de l'Union européenne, l'un des membres du continent européen, et surtout venir menacer la paix. Donc oui, effectivement, nous croyons dans ce projet européen. Il faut que le projet d'Anne Hidalgo puisse voir le jour, puisque l'Europe, c'est l'outil de notre souveraineté, et ça s'applique pleinement dans cette crise européenne. On doit être solidaires de nos partenaires européens et construire ensemble une réponse collective à cette agression russe sur l'Ukraine.
Lamia Elarage, quelles vont être les répercussions de la crise ukrainienne sur la campagne électorale ? Il faut continuer tout de même à parler des sujets qui intéressent les Français, comme le pouvoir d'achat, le travail, la santé, par exemple ?
Écoutez, je crois que c'est difficile pour le moment de dire quels vont être les impacts de cette guerre aux portes de l'Europe sur la campagne électorale. Et c'est difficile pour moi de mêler les deux sujets tant ils sont aussi importants, si je puis dire, l'un que l'autre, à des degrés différemment. Évidemment, la crise ukrainienne doit absolument trouver une solution qui ne peut être que la paix. Et dans ce cadre-là, je ne vous cache pas que je suis assez inquiète quand on voit le bilan à l'international d'Emmanuel Macron, qui n'est pas reluisant, et c'est plutôt un euphémisme que de le dire comme ça. Les autres sujets que vous évoquez sont tout aussi importants, puisqu'il s'agit du quotidien des Françaises et des Français, et qu'on a une échéance, cette échéance elle est électorale, elle est extrêmement proche, puisqu'on parle de quelques semaines désormais, et qu'il y a des préoccupations qui sont majeures aujourd'hui pour nos citoyens. Quand on parle de la question du pouvoir de vivre, quand on parle de la question du salaire, quand on parle de la question des énergies, quand on parle de la question de la santé, quand on parle de la question de la sécurité quotidienne des Françaises et des Français, on ne peut pas considérer que ce ne sont pas des priorités. Et je regrette d'ailleurs à ce titre que ces sujets-là ne soient pas suffisamment abordés au quotidien dans cette campagne électorale, d'autant qu'il manque un candidat déclaré, puisqu'Emmanuel Macron, bien que disposant de ses parrainages, bien que faisant campagne depuis maintenant de nombreuses semaines aux frais du contribuable, ne se déclare toujours pas officiellement comme étant candidat.
Alors on va parler de la campagne d'Anne Hidalgo, Lamia Elarage. Des tracts sont distribués actuellement dans toute la France. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'elle veut pour le pays ? Elle utilise des slogans de campagne comme « Ensemble, changeons d'avenir » ou encore « Réunir la France ».
Tout d'abord, le projet que porte Anne Hidalgo est un projet sérieux, est un projet étudié, est un projet qui a été travaillé, qui est financé et qui porte les valeurs qui sont celles de la social-démocratie aujourd'hui en France. Ces valeurs, elles sont extrêmement fortes et elles sont effectivement, vous l'avez dit, résumées, si je puis dire, dans ces slogans « Ensemble, changeons d'avenir, réunir la France ». C'est je dirais un sujet éminemment important à l'heure où je vous parle, puisqu'on sort de 5 ans de présidence d'Emmanuel Macron. Et ces 5 ans ont été marqués par un fractionnement de la société, des divisions qui sont venues opposer les Français les uns aux autres, là où le projet, il me semble, celui de la République française, est de rassembler les Français autour d'un projet commun, autour de valeurs communes. Donc c'est le sens de cette ambition qui est celle de réunir la France, pour trouver ce chemin commun qui nous permette de réunir, si je puis dire, le plus grand dénominateur commun, plutôt que de considérer chaque individu par le plus petit dénominateur qui puisse le caractériser. Je ne crois pas que ce soit comme ça qu'on construise un modèle de société. En tout cas, c'est pas la vision que nous portons avec Anne Hidalgo et c'est le sens du projet qu'elle défend d'ores et déjà depuis plusieurs semaines maintenant devant les Françaises et les Français.
Un des premiers sujets du projet d'Anne Hidalgo, c'est le travail. Comment entend-elle revaloriser le travail ?
Alors, il y a plusieurs choses. C'est vrai que on entend souvent le fait de la part des libéraux, de la part des conservateurs, de la part de la droite et de la droite réactionnaire, les gens qui ne travaillent pas parce qu'ils sont au chômage font le choix de ne pas travailler, font le choix de l'assistanat. C'est éminemment faux. Quand vous êtes sur le terrain, quand vous rencontrez des gens qui se sont trouvés empêchés de travailler du fait d'une crise, du fait d'une crise sanitaire, du fait d'une crise économique, du fait d'un contexte qui les a dépassés, la plupart, ils aspirent qu'à une chose, de pouvoir retrouver un emploi. Et contrairement à ce que dit M. Macron, il suffit pas de traverser la rue pour trouver un job. C'est pas vrai. Ça ne fonctionne pas comme ça. Et malheureusement, j'ai l'occasion quotidiennement dans ma circonscription de rencontrer des gens qui se sont trouvés à un moment donné de leur vie dans une situation qui les a empêchés de pouvoir travailler. Donc d'abord, le travail, c'est renouer avec une forme de dignité. C'est être en capacité de gagner sa vie. Et justement, gagner sa vie, c'est aussi pouvoir vivre dignement des revenus de son travail. Or, aujourd'hui, un grand nombre de nos concitoyens n'ont pas la capacité de vivre dignement de leur travail, et ce, malgré le fait qu'ils s'investissent, malgré le fait qu'ils donnent quotidiennement de leur temps en échange d'une rémunération. Sauf que quand cette rémunération, elle ne vous permet même pas de payer vos factures, quand cette rémunération, elle fait que parfois le mois s'arrête au 10 du mois ou au 15 du mois, et ben nous, on estime avec Anne Hidalgo que c'est pas normal. D'où cet objectif de revaloriser le SMIC à hauteur de 1 400 € net et avec une augmentation généralisée des salaires de l'ordre de 15%. Pour ça, il va y avoir une grande conférence des partenaires sociaux qui va être réunie dès le début de la mandature, si Anne Hidalgo est élue, pour être en capacité de discuter des modalités de mise en œuvre de cette augmentation. Mais aujourd'hui, cette augmentation, elle est impérieuse. C'est pas un fantasme. C'est pas juste, je dirais, une vue de l'esprit. C'est une réalité. Discuter avec les gens. Qu'est-ce qu'ils vous disent ? J'en ai marre. Je gagne en moyenne, le salaire médian est 1 500 € par mois en France aujourd'hui pour un foyer avec 2 adultes et 2 enfants. Mais ça ne suffit absolument pas à vivre dignement. On parle même pas de pouvoir d'achat, là. On parle de pouvoir payer ses factures, de pouvoir s'octroyer un minimum de loisirs et pouvoir offrir des perspectives d'avenir à soi-même et à ses enfants. Et ça, aujourd'hui, c'est pas possible en France. Donc, je crois que collectivement, ça doit nous interpeller et on doit réagir très fortement.
Et augmenter le SMIC, cela aidera notamment les femmes qui sont souvent les plus mal payées en France. Je pense au temps partiel imposé à certaines femmes dans la distribution. Il y a aussi cette question des inégalités salariales, sans parler aussi des petites retraites quand on a une carrière hachée.
Tout à fait. Aujourd'hui, les femmes et les travailleurs ubérisés font partie des travailleurs les plus précaires. Pour plein de raisons différentes, vous l'avez évoqué, il y a la question des salaires plus bas, en moyenne de 15% plus bas que pour les hommes. On parle des carrières hachées avec des interruptions voulues ou subies, soit pour avoir des enfants, pour garder les enfants, soit parce qu'on fait l'objet de licenciements de façon plus importante, si je puis dire, quand on est une femme, soit parce qu'on s'est arrêté de travailler pour pouvoir élever ses enfants pendant un certain temps. Et ça, c'est absolument pas normal. Vous avez aussi des perspectives de carrière qui amènent à une forme de précarité. Vous avez évoqué la grande distribution. Il y a aussi tous les temps partiels, tout un ensemble de métiers qui ne sont pas correctement rémunérés, qui ne sont pas correctement reconnus par la société. Donc il est extrêmement important que sur ce sujet précis, nous puissions porter dès le début du mandat une très grande loi sur l'égalité salariale entre les hommes et les femmes qui permette de résorber cet écart de 15% qui reste beaucoup trop important aujourd'hui. Il y a un deuxième sujet, pardon, juste pour terminer, il y a un deuxième sujet qui est extrêmement important, puisqu'on voit aujourd'hui se développer de plus en plus ce qu'on appelle l'ubérisation du monde du travail, avec une revalorisation, si je puis dire, du statut d'auto-entrepreneuriat. Et ça, pour nous, ce n'est absolument pas acceptable. Vous avez aujourd'hui un grand nombre de travailleurs qui sont concernés par ce statut-là, par un statut extrêmement précaire. Donc il est important qu'on puisse les considérer comme des salariés et leur permettre d'obtenir des droits qui vont de pair avec le statut de salarié, à savoir des allocations chômage, à savoir l'assurance maladie, à savoir un salaire minimum, à savoir une garantie de retraite. Voilà, ça fait partie, je dirais, du bouclier social qu'on se doit d'exiger pour tout un chacun aujourd'hui en France. On ne peut pas accepter un tel recul de nos droits sociaux et des avancées qui ont été chèrement conquises par nos aînés.
Lamia et Larage, comment mettre fin au ghetto scolaire et permettre la réussite des élèves issus de familles modestes ou de quartiers populaires, comme dans le 20e arrondissement, votre arrondissement ?
Je ne sais pas si on peut parler de ghetto scolaire en tant que tel, j'aime pas trop cette expression de ghetto, mais en tout cas, ce qu'on peut constater, c'est qu'aujourd'hui, l'école républicaine, censée garantir l'égalité républicaine, n'est plus en capacité de le faire, et principalement dans un certain nombre de quartiers, je pense effectivement à ma circonscription, dans le 20e arrondissement, ou à certains départements comme la Seine-Saint-Denis voisine, où j'ai l'occasion d'échanger régulièrement avec les élus locaux, qui me remontent des problématiques qui sont absolument inacceptable, des enseignants non remplacés, des moyens pas à la hauteur des besoins des enfants qui se trouvent dans des situations de décrochage scolaire, dans des situations de déshérence du fait d'origine, on va dire, familiale plus modeste, d'un environnement de vie moins favorable qu'ailleurs. Donc pour ce faire, il faut agir à plusieurs endroits. Le premier, c'est la question de la revalorisation salariale du salaire des professeurs. Tout le monde a poussé des cris d'orfraie quand Anne Hidalgo a parlé de la revalorisation nécessaire du salaire des enseignants. Mais est-ce qu'il est acceptable aujourd'hui que des gens à qui on confie l'avenir des futurs citoyens que sont nos enfants, est-ce qu'il est normal que des gens qui vont forger l'esprit, l'intellect de nos enfants soient payés comme ils le sont aujourd'hui? Nous, on estime avec Anne Hidalgo que ce n'est pas normal. Et pour cela, on a décidé d'augmenter le salaire des professeurs pour l'amener au niveau moyen du salaire des cadres tels qu'ils sont payés dans le privé en raccord avec leur niveau d'études. Et ça, je crois que personne ne peut contester cette nécessité-là. Le deuxième point, c'est mettre en place des états généraux autour des questions de pédagogie, qui soit organisé dès 2022 pour pouvoir s'inspirer des innovations en la matière, accompagner les enseignants avec une revalorisation de la formation des enseignants de façon à ce qu'elle soit plus riche, plus en adéquation avec leurs pratiques quotidiennes et pour leur permettre d'accompagner au mieux nos enfants. Puisque les apprentissages, c'est un tout. Il y a la théorie, mais il y a aussi le vivre ensemble, il y a aussi la citoyenneté, il y a aussi tout un ensemble d'éléments qui viennent constituer les individus et les futurs adultes que seront nos enfants. Il y a aussi un autre sujet, pardon, qui est celui du harcèlement scolaire et de la santé mentale des enfants, où là, on se doit d'être beaucoup plus exigeant que ce qu'on est aujourd'hui, de lancer un grand plan à la matière, déjà pouvoir faire un bilan de l'impact qu'a eu cette crise sanitaire sur nos enfants. J'ai l'occasion d'échanger avec de nombreux enseignants, de nombreux personnels du périscolaire, des directeurs d'établissements qui me disent tous qu'ils sentent que les enfants sont à bout, qu'ils sont beaucoup plus agressifs, que c'est beaucoup plus compliqué de les accompagner, de les canaliser. Donc je crois qu'il est important qu'on puisse dresser un bilan et derrière accompagner nos enfants sur le plan de leur santé mentale et lutter contre le harcèlement scolaire qui aujourd'hui, à l'aune d'ailleurs des réseaux sociaux, prend des proportions qui sont extrêmement inquiétantes. Et deux derniers points, pardon. Lutter contre le décrochage scolaire, ça devient un impératif vital. On a vu notamment au collège, avec le confinement, un grand nombre d'enfants rentrer en situation de décrochage et qu'on a du mal à pouvoir ramener. Et enfin, supprimer Parcoursup, mais ça, je crois que c'est plutôt consensuel dans la société aujourd'hui. C'est absolument indigne de la part d'une société comme la nôtre, de la part de la République qui est la nôtre, de traiter les élèves de terminale comme on les traite aujourd'hui. C'est pas possible. Laisser un algorithme décider de l'avenir de nos enfants, c'est pas acceptable. C'est pas la vision qu'on porte. Donc, supprimer Parcoursup et mettre en place un système individualisé, humain et transparent qui permette à nos enfants de pouvoir se projeter et à leurs parents aussi de se rassurer quant à la qui sera le leur à la rentrée universitaire ou la rentrée scolaire en fonction de ce que décident de faire nos enfants ou leur insertion professionnelle pour ceux qui décident de s'insérer, quelle que soit la modalité d'insertion. Ça peut être de l'alternance, ça peut être de l'apprentissage. Voilà.
Lamia Elarage, la gauche est très affaiblie si l'on en croit les sondages. Pensez-vous que les Français auront le choix seulement entre Emmanuel Macron ou un des deux candidats de l'extrême droite? Et que dites-vous aussi aux électeurs de gauche qui sont tentés par le vote Mélenchon parce qu'il est le plus haut dans les sondages?
Écoutez, depuis le début, nous alertons, nous, des socialistes, sur cette ère du tout sondage. Les sondages sont, je dirais, un cliché pris d'une opinion à un moment donné. Ce cliché, il dépend de plein de paramètres et il dépend de plein d'éléments extérieurs qui ne sont pas, à mon sens, le reflet concret de ce que peut être le résultat au soir du premier tour. Ce que je veux dire par là, c'est que ces sondages induisent complètement en erreur cette campagne électorale. Et aujourd'hui, on ne raisonne pas en fonction de ce que sont les vrais sujets, ce que veulent les gens, mais on raisonne en fonction de ce que nous disent les sondages. Et c'est comme ça que se construit une candidature comme celle d'Éric Zemmour, par exemple. Sur Mélenchon, moi je ne crois pas que ce soit un vote utile à gauche, c'est un vote à l'extrême gauche déjà, tout d'abord. J'invite l'ensemble des électeurs de gauche qui seraient tentés par un vote vis-à-vis de Jean-Luc Mélenchon de regarder attentivement un certain nombre de ses positions, notamment là aujourd'hui on est en pleine crise en Europe, on est en pleine guerre au vu de l'attaque de la Russie sur l'Ukraine. Regardez ce qu'a pu raconter Mélenchon sur la situation ukrainienne et sur la Russie. Enfin, je veux dire, c'est absolument effarant. Quand on est démocrate, quand on est républicain, je crois vraiment qu'on doit s'inquiéter de ce type de propos et du fait de considérer que Jean-Luc Mélenchon peut être un président de la République qui vienne rassembler demain et qui vienne porter notre voix à l'international. Ensuite, pardon, mais voilà, je crois qu'il est important à ce moment-là de notre échange de dire que j'appelle vraiment l'ensemble des gens qui nous écoutent, d'une part, à s'inscrire sur les listes électorales, c'est encore possible jusqu'au 2 mars en ligne et jusqu'au 4 mars en présentiel. Votre bulletin de vote, c'est votre voix demain pour porter votre opinion et pour venir infléchir cette élection présidentielle. Les sondages ne sont pas la sortie des urnes du premier tour de la présidentielle. Ne vous laissez pas voler votre vote par des indicateurs d'opinion qui sont totalement biaisés en fonction de la façon qu'on va avoir de faire ces sondages-là.
Merci Lamia Elarage. Je rappelle que vous êtes députée sortante du 20e arrondissement, conseillère de Paris et porte-parole du Parti Socialiste. Et vous soutenez bien sûr la campagne d'Anne Hidalgo. Bonsoir.
Bonsoir à vous.
C'était Pluriel, une émission hebdomadaire présentée par Loïc Barrière.